C'est le moment d'aller retrouver Luc Lavoie. Luc, j'étais bonjour.
Salut, ça va?
J'étais choqué et déçu de quand j'ai vu tomber sur les fils de presse cette nouvelle disant que l'Angleterre ne veut pas nous accueillir, puis il accueille d'autres pays, même si on est doublement vacciné, puis qu'on fait partie des plus vaccinés du G20. Je comprends pas. La comprends-tu?
Moi, je ne la comprends pas du tout. J'ai essayé, en fouillant, pour essayer de comprendre pourquoi ils en sont venus à une telle décision d'exclure le Canada. J'en ai pas trouvé. Alors, si je me reporte juste à l'expérience que j'ai de travailler à Ottawa, j'ai l'impression qu'il y a dû y avoir des pourparlers diplomatiques impliquant le Haut-Commissariat canadien à Londres et l'ambassade de le Haut-Commissariat britannique à Ottawa, mais ça a pas marché. Je comprends pas pourquoi. Parce que là, comme c'est là, tu sais, gouvernement anglais et écossais qui ont annoncé mercredi que les voyageurs entièrement vaccinés en provenance des États-Unis et d'Europe n'auront plus à se mettre en quarantaine pendant 10 jours à leur arrivée. Pourquoi pas nous? Ça, j'ai de la difficulté à comprendre, et c'est pourquoi j'arrive à... Parce que, entendons-nous, sur le plan statistique, le Canada se porte assez bien dans cette pandémie-là.
Ben, pas mal mieux que les États-Unis, en tout cas.
Pas mal mieux que les États-Unis, certainement, puis sais-tu quoi? Pas mal mieux que la Grande-Bretagne aussi, puis... C'est même à se demander, je me suis demandé, moi, si c'est pas l'inverse, si c'est pas le Canada qui a dit, mais pas tout de suite, là.
OK. Parce... vous êtes bien gentil de nous l'offrir, mais je pense qu'on va se garder une petite gêne parce que vous êtes tellement à risque qu'on n'enverra pas nos citoyens là-bas.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça parce que, écoute, j'y vais par déduction, là, mais tu vois, c'est qui a commenté? Chrystia Freeland. Ça, c'est la ministre de tout. elle est ministre de tout ce qu'il y a à Ottawa. Puis c'est la seule qui a donné une réaction officielle. Elle a dit « J'ai beaucoup de respect pour le droit souverain de chaque pays de décider pendant la pandémie de COVID qui peut entrer et à quelles conditions. » Je lis ça, je me dis, bon, il y a des sous-entendus dans ça. Ce qui est sous-entendu, à mon avis, c'est justement qu'on pense que c'est pas le temps d'ouvrir avec eux autres. Okay. Voilà.
Parce que c'est pas...
En d'autres mots, on n'est pas puni parce qu'on n'est pas fin, là. Peut-être que c'est nous autres qui avons dit non, pas maintenant.
J'aimerais mieux que ça soit cette lecture-là de la situation, parce que sinon... On a de l'air vraiment des enfants pauvres d'un Commonwealth qui est boiteux, tu sais.
Ah, tu le Commonwealth, là, à part un sommet qui a lieu tous les 3 ans, là.
Il se passe rien, là.
Ben, il y a rien, là. En fait, c'est un peu choquant, je sais pas si t'as déjà vu ça, mais quand t'es à Londres, dans la partie historique, là, t'as le siège du Commonwealth. Un édifice extraordinaire, formidable. Mais le Commonwealth, ça veut plus rien dire. Autrefois, quand les Britanniques ont décolonisé, ont donné l'indépendance à leur colonie, par le Commonwealth, ils voulaient créer une sorte de zone de libre-échange, une zone de commerce, une zone d'entraide. Mais à mesure que le temps a passé, ça tient plus à rien, en fait. Le Commonwealth, c'est comme un endroit pour manger des petits fours et prendre un petit verre de champagne, quoi.
allons en Chine. Avant de parler du sujet des variants en Chine, puis tout ça, hier, j'ai vu à TV5 un entretien avec l'ambassadeur de Chine en France qui répondait à des questions d'un journaliste. Et il y avait après ça un commentateur qui a été délégué de la France en Chine. Et tu sais, nous autres, on est habitués de prendre l'expression « Chine » qui veut dire « l'empire du milieu », tu sais.
Oui.
Lui, il dit, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire, la traduction de ça. Ça veut dire le centre du monde. Et l'ambassadeur dit, et nous allons le redevenir, parce que c'est un accident historique que nous ayons été mis entre parenthèses. Nous allons redevenir les maîtres du monde. C'est assez incroyable d'entendre ça. C'est même un petit peu épeurant.
C'est un petit peu épeurant, mais sais-tu quoi? Ça correspond drôlement à la réalité qui se déroule sous nos yeux à l'heure actuelle.
C'est ce qu'il disait, lui. Il dit, attendez, vous n'avez rien vu, ça s'en
Effectivement.
Vient.
Effectivement. Et là-dessus, on en a déjà parlé à l'émission avec Bernard au mois de mai ou quelque chose, mais je vous rappelle que Jean-Louis Roy, là, qui était à la tête de la Bibliothèque nationale du Québec, qui a été délégué général du Québec à Paris et plein d'autres trucs, écrit maintenant des livres, et il a fait de la... Chine, une sorte de domaine d'expertise pour lui. Et si vous allez acheter ce livre-là, ça s'appelle Shanghai 2040. C'est une histoire fabuleuse. C'est l'histoire fictive, mais qui s'appuie sur des faits historiques. Alors, on se projette en 2040. C'est pas si loin que ça. C'est un peu moins que 20 ans. Et puis, on voit que la Chine est devenue si puissante que la Chine veut déménager le siège de l'Organisation des Nations Unies de New York à Shanghai. Et bon, c'est un très, très bon livre parce que ça nous ouvre les yeux sur ce à quoi on fait face à l'heure actuelle. Absolument. Je pense, à mon avis, que dans la guerre des empires, si on peut l'appeler de même, les États-Unis, franchement, ça se sont en train de perdre complètement la game, complètement.
Et l'autre affaire, j'aurais dû te prévenir que je voulais parler de ça parce que ça m'a tellement impressionné.
Vas-y.
Alors, cet ambassadeur a une autre question où on lui dit, vous savez, les droits de l'homme, puis etc., etc., vous n'avez pas la main. Il dit, on n'a pas la même vision que vous des droits de l'homme parce que nous sommes présentement, nous, encore dans un problème de développement. Vous avez dépassé la question du sous-développement. Il y a des ressources, tout le monde a un certain bien-être. Nous ne l'avons pas chez nous. Et c'est pour ça, donc, qui justifiait les contrôles de population. Bon. C'était particulier, ça aussi.
C'est très, très particulier, de la même façon que il faut toujours penser à l'espace démographique occupé par la Chine, je dis bien démographique. Mm-hmm. 1,4 milliard, ça c'est leur population. Ensuite de ça, il faut que tu ajoutes la population de Singapour, qui est complètement chinoise, qui est un État, une ville-État. Mm-hmm. C'est un autre 3 millions de personnes. Puis là, tu peux continuer comme ça. Et là, tu te rends compte à un moment donné que... Ouais. Alors, je me souviens entre autres d'une entrevue comme celle que tu as vue il y a un certain temps, où il était en train d'expliquer comment ça se fait que la Chine dominait. Tu sais, je veux pas compliquer la discussion, là, mais il y a des choses simples à comprendre. On a, collectivement, l'Occident, décidé d'envoyer nos projets manufacturiers vers la Chine, puis tout ce qui est les pays satellites autour de la Chine. Et nous, notre idée, c'est qu'on allait se concentrer sur tout ce qui avait à voir avec le cerveau, les penseurs. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de job pour tous les penseurs puis tous les cerveaux. Ils sont tous partis en Chine, les jobs, et puis elles reviendront pas. Elles reviendront pas. Et ce nouvel ambassadeur que tu dis, bon, qui est enfin l'ambassadeur de Chine en France... Hier, ils ont nommé un ambassadeur pour les États-Unis. Ils ont choisi le plus, comment dire, celui qui est le plus polémique, celui qui est le plus radical dans sa défense des droits et de la place de la Chine dans le monde. Ils viennent de le nommer à Washington. On va avoir pas mal de temps
à discuter de ça.
Ah oui, monsieur, c'est le début d'une longue affaire.
OK, revenons donc, je m'excuse de cet exergue, mais je trouvais ça intéressant pour le public de savoir où... des fois, on regarde la Chine, puis on ne comprend pas tout à fait, puis on préfère les haïr que de comprendre. Et pourtant, ils ont leurs propres difficultés, mais en même temps, ben, ils viennent un peu jouer sur l'échiquier mondial et briser l'équilibre auquel nous, on est habitués occidentaux. T'sais.
Et à leur défense, là, il y a quand même une réussite que la Chine, dont on ne peut pas exclure la Chine. La Chine a fait sortir 7 à 800 millions de personnes de la pauvreté la plus abjecte en l'espace d'à peu près 50 ans. C'est en soi une incroyable réussite. Maintenant, c'est pas le paradis, là. Moi, j'aime pas bien ça, avoir un parti communiste, ouais, ces affaires-là, tout ça. Mais la réalité, c'est ça.
OK. Le variant Delta qui se propage en Chine.
Ouais, c'est ça, là. C'est une nouvelle flambée. Puis plusieurs provinces de Chine, y compris Pékin. On dit que la contagion a touché 171 personnes dans la province de Jiangsu, limitrophe de Shanghai, et a gagné au moins 4 autres provinces. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme tu sais, la Chine offre des vaccins à beaucoup de pays du monde.
Oui.
Il s'appelle Sinovac, il y a 2-3 noms. Bien là, ce qu'on a découvert ici, c'est que la majorité des personnes contaminées en Chine avaient déjà été vaccinées. Alors, ça fait comme... ça inquiète un peu quant à l'efficacité des vaccins chinois. Dieu soit loué, il n'y en a pas ici au Canada.
Exact, tout à fait. Il y a quelques jours, on a fait un peu le bilan des revenus de Pfizer, BioNTech. Là, c'est AstraZeneca. Ils ont des chiffres intéressants, eux aussi, non?
Ouais, ben là, tu sais, c'est pas du tout dans la même ligue, mais quoi qu'il en soit, ils ont annoncé aujourd'hui que les ventes du vaccin de la COVID-19 avaient atteint 1,17 milliard de dollars au cours du premier trimestre, et ils ont relevé leurs prévisions. Alors, ça correspond à la livraison d'environ 319 millions de doses dans le monde le groupe vend à prix coûtant sans profit. Tu sais, toute cette histoire-là de prix coûtant sans profit, tu sais, le vaccin d'AstraZeneca a été développé à l'Université Oxford en Angleterre, qui a reçu des centaines et des centaines de millions de dollars de subventions. Et là, ils disent qu'ils l'offrent au prix coûtant. Bon,
oui.
Bon, mais j'aimerais savoir si c'est vrai, je ne suis pas sûr, je suis pas vraiment sûr.
Pas sûr du coûtant, toi. Hein?
Non.
Hey, aux États-Unis, arrivons aux États-Unis. Là, il commence à avoir des entreprises qui mettent des règles de vaccination pour forcer la vaccination parce qu'il y a des retards aux États-Unis. Là, on pense à Google, des entreprises comme Facebook.
Ouais, ben, Facebook, Google, j'aurais pu y ajouter Apple, toutes ces compagnies-là qui font, tu sais, on parle de compagnies qui ont 200 000 à 300 000 employés, là.
Mm-hmm.
Ils ont annoncé hier qu'ils vont exiger de tous leurs employés, je parle de Google et Facebook, amenés à se rendre dans leurs locaux, qu'il faut qu'ils soient vaccinés. Parce que, il y a aussi le fait que le télétravail va se poursuivre, il y a des pourparlers, est-ce qu'ils vont représenter 50% de tout le travail à accomplir, comment ça va se faire, tout ça. Mais la réalité, c'est que pas de vaccination, plusieurs compagnies, on parle que cet après-midi, le président Biden va annoncer la même chose, mais pour tous les fonctionnaires fédéraux. Alors nous, là, au Québec, je me répète jour après jour, Jean-Luc, il faut qu'on se fasse vacciner. C'est pas bien compliqué. Il faut. Parce que ce genre de restrictions-là, ça ira pas en diminuant. D'après moi, ce genre de restrictions-là, ça va aller en se multipliant.
Ça va habiter probablement notre écosystème citoyen de voir ici des obligations.
Et voilà. Alors, tu sais, le temps du blabla est comme terminé. Allez vous faire vacciner, c'est tout, c'est simple. Puis vite.
C'est intéressant ton prochain point parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, bon, ben là, pendant l'année, on travaille pour soi, puis le reste de l'année, on travaille pour l'impôt et le ministère, mais la planète également a atteint son point de non-retour pour ce qui est de la consommation terrestre que nous avons pour fournir nos besoins.
Ben oui, il y a un groupe qui s'appelle Global Footprint Network et qui nous annonce qu'aujourd'hui même, on commence, la planète Terre commence à vivre à crédit. C'est-à-dire que là, il n'y a plus assez de... On gaspille de plus en plus de ressources biologiques, énergétiques et tout ce que tu veux, puis à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, c'est comme la Terre est en déficit. La planète est en déficit. Là, ce qu'on est en train de gruger, c'est de plus en plus des choses qui sont irréparables. Alors, moi, je pense que c'est drôlement important. Je connaissais pas cette notion-là avant de lire cet article-là, mais ça éclaire. Tu sais, ça nous donne que, tu sais, par exemple, tu vois les fameuses forêts d'Amazonie. Et là, c'est rendu
qu'ils sont en train de... C'est le poumon de la Terre, mais il manque un lobe, là.
Ouais, 3600 kilomètres carrés qui ont été déboisés au premier semestre seulement, une hausse de 17% par rapport à la même période en 2020. Hey, avec un président comme Bolsonaro, je ne m'attends pas que ça change.
Hey, Luc, il vient de tomber sur les fils.
Oui.
Une nouvelle. Le premier ministre Justin Trudeau a nommé 3 Québécois au Sénat aujourd'hui, oui. À l'instant. 2, oui. Dont la militante autochtone Michèle Audette,
oui.
Et l'ex-ministre Clément Gignac. Le troisième, on n'en parle pas. Mais c'est ces deux-là là, qui sont les deux candidats vedettes et qui sont maintenant sénateurs canadiens. Qu'en penses-tu?
Je pense que c'est tout à fait dans la lignée de ce que monsieur... D'abord, comme tu sais, ils sont plus nommés par le même processus qu'avant. Là.
Non.
Et il faut quasiment que tu fasses... Il faut en fait que tu fasses application, carrément, comme les gens qui veulent devenir juges de nos jours doivent
faire. Oui, ils te demandent de faire application.
Oui, ils peuvent te demander de faire application, mais il reste que ça traverse un processus de tamisage quand même assez sérieux.
Mm-hmm.
Clément Gignac, un homme qui a beaucoup contribué à faire mieux comprendre l'économie et tout ça, ça m'apparaît un excellent choix. Madame, c'est quoi déjà son nom?
Michèle Audette.
Oui, c'est elle qui travaillait sur la commission d'enquête sur les femmes autochtones. J'ai toujours trouvé que c'était une femme extrêmement impressionnante quand elle donne des entrevues à la télévision, calme, posée, intelligente. Alors, le Sénat, tant qu'il va être là, aussi bien y nommer des gens qui ont une bonne capacité, alors qu'autrefois, on nommait tous les anciens. On allait chercher ceux qui avaient collecté des fonds pendant la campagne électorale, puis l'organisateur d'un tel, puis l'organisateur
d'un autre. Puis, il travaille plus qu'il travaillait, parce qu'avant, pour garder ton salaire de député, tu avais juste à passer une fois par année. Hein,
ton salaire de sénateur.
De sénateur.
Oui, tout à fait.
Exact.
Mais là, ils sont obligés de travailler un peu plus, en effet, mais effectivement, le Sénat devient plus sérieux qu'avant. Ça devient plus, comment dire, on y retrouve des gens de très fort calibre.
Tout à fait. Voilà. Merci, Luc. C'est tout le temps que l'on a. C'était fort intéressant. On se retrouve on se retrouve lundi, nous autres. On ne se revoit pas demain.
Ben non. Bon week-end, Jean-Luc.
T'as une position, 4 jours semaine.
C'est pas pire. Hein?
T'as des moyens de négocier qu'on connaît pas.
Ah! Bon, cher. Ben, salut.